22h. Belle soirée à vous sur Europe 1. Tout de suite le journal, Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal. J-5 avant la mobilisation des gilets jaunes, le gouvernement a 5 jours pour déminer. Il prépare une liste de mesures pour atténuer l'impact de la hausse des prix des carburants. Les profs n'ont pas fait le plein, mais ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Si vous supprimez des postes, on ne va pas y arriver. Chez Force Ouvrière, les dirigeants ont eu la main leste sur les notes de frais. 388 000 euros à 13 l'an dernier, ça fait désordre. L'incendie meurtrier de Californie poursuit sa terrible progression. Le vent continue à souffler et la pluie n'est toujours pas d'actualité. Je ne suis pas un saint, dit Georges Tron, mais l'ancien secrétaire d'État clame son innocence face à deux ex-employés de sa mairie de Draveil qu'il accuse de viol. François Gabart, beau joueur, il a mené tout du long dans la route du Rhum avant d'être coiffé au poteau par Francis Joyon. Et puis notez qu'Emmanuel Dutheil recevra à 22h20 le directeur général de Blablacar qui vient tout juste aujourd'hui de racheter Ouibus à la SNCF.
Europe 1.
On est donc à 5 jours de la grande journée de mobilisation contre la hausse des prix du carburant et le gouvernement continue d'explorer les pistes qui permettraient d'atténuer l'effet de cette hausse. Emmanuel Macron l'avait évoqué la semaine dernière sur Europe 1. Une réunion s'est tenue à Matignon ce matin avec autour de la table les principaux ministres concernés, François de Rugy, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin. Il y a urgence, ce mouvement du 17 novembre, l'exécutif le redoute. Alors Anne-Laure Jumet, que va-t-il sortir de son chapeau pour tenter de calmer la colère des Français, quelles sont les mesures qui sont envisagées ?
Première mesure, une extension de la prime à la conversion. Ce chèque de 1 000 à 2 500 euros pour échanger sa vieille voiture diesel ou essence contre un véhicule moins polluant. Eh bien, les conditions d'attribution vont être revues pour toucher davantage de bénéficiaires et notamment ceux qui font beaucoup de kilomètres. Même s'ils roulent avec des véhicules un peu moins anciens que ceux concernés aujourd'hui, ils pourraient bénéficier de cette prime. Jusque-là, le gouvernement visait 500 000 bénéficiaires. D'ici la fin du quinquennat, ce chiffre sera doublé. Deuxième paquet de mesures pour ceux qui ont du mal à payer leur facture d'énergie. Et là, on parle du chèque énergie, 200 euros l'an prochain en moyenne. Il permet aux ménages les plus modestes de payer leurs factures d'énergie ou leurs travaux de rénovation énergétique. Eh bien, lui aussi devrait toucher davantage de monde et notamment des personnes imposables mais à faible revenu. Son montant pourrait aussi être revu à la hausse. En revanche, le gouvernement ne distribuera pas de chèque carburant au plan national sur le mode de ce qui se fait dans les Hauts-de-France. Simplement, il soutiendra ce type de démarche en défiscalisant ses aides.
Les précisions d'Anne-Laure Jumet du service économie d'Europe 1. A noter que paradoxalement, les prix à la pompe ont fortement baissé ces derniers jours en raison du repli des cours du pétrole. 3 centimes de moins la semaine dernière pour le gazole, moins 5 centimes pour l'essence. Et puis c'est l'une des premières conséquences concrètes du mouvement des Gilets jaunes qui ont donc prévu de bloquer les routes samedi. La Ligue de foot de Normandie annonce le report de toutes les rencontres prévues ce jour-là. Pas de foot non plus à quelques exceptions près en région Nouvelle-Aquitaine qui redoute elle aussi les difficultés que pourraient avoir les clubs à se déplacer. La grève contre les suppressions de postes à l'éducation nationale, suivie d'après les syndicats par près d'un enseignant sur deux dans le second degré et un sur quatre en primaire. Des chiffres beaucoup moins élevés selon le ministère de l'Éducation qui lui parle de 10% de grévistes seulement sur l'ensemble des personnels. On a rarement vu un tel grand écart. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les cortèges, les syndicats n'ont pas fait le plein. Ils étaient plusieurs centaines seulement à Paris. Parmi eux, Vincent, prof d'EPS à Vanves en banlieue parisienne, qui déplore la dégradation des conditions de travail.
On nous annonce encore des suppressions de postes, on ne peut plus faire des dédoublements de classe dans certaines matières, on ne peut plus assurer les options en seconde malgré des discours où justement on est censé nous donner les moyens. Et la réalité, c'est l'inverse. Moi j'ai commencé en 2000, au maximum on avait 30 élèves, c'est déjà assez dur, maintenant c'est 37, donc on ne peut pas s'occuper vraiment bien de tous les élèves. On fait passer les programmes, mais sans faire de l'individualisation comme on aimerait faire en fait. On ne peut pas leur donner ce qu'ils méritent en fait, même si on est impliqué à fond.
Vincent, enseignant gréviste cet après-midi dans la manifestation parisienne. Il était au micro européen de Claudia Beltrame. Après le scandale des fichiers qui a coûté son poste à Pascal Pavageau, voilà que Force Ouvrière est secouée par une autre affaire d'ordre financier cette fois. Le montant des notes de frais des principaux dirigeants de la Confédération s'étalait ce matin dans les colonnes du journal Le Parisien. 388 000 euros quand même. Olivier Samain, on parle là de l'année 2017.
Oui, 388 000 euros de notes de frais répartis entre 13 dirigeants de FO, les 13 membres du bureau confédéral. Ça fait presque 30 000 euros en moyenne par personne l'année dernière. Alors ça correspond à quoi ? Aux frais de déplacement, aux repas, aux frais d'hébergement pour les dirigeants qui n'habitent pas à Paris. La Confédération leur paye l'hôtel, voire pour certains, le loyer de leur appartement. Ça en soi, ça n'est pas répréhensible. C'est la réponse aux contraintes de fonctionnement des grandes organisations, syndicats ou autres, où il faut aller voir les militants sur le terrain, participer aux différents congrès, représenter le syndicat dans les instances internationales, etc. Ce qui surprend plutôt, c'est le montant assez élevé de ces notes de frais, tout comme les niveaux de rémunération des principaux dirigeants de FO, 6 000, 7 000, voire 8 000 euros bruts, des niveaux sensiblement plus élevés que ceux pratiqués dans les autres confédérations.
Olivier, quand même, dans l'ambiance actuelle, est-ce qu'on peut y voir des arrière-pensées, des règlements de compte peut-être à Force ouvrière ?
Eh bien, ce ne serait pas étonnant. Dans un communiqué publié cet après-midi, la direction de FO s'interroge sur l'origine de ces fuites et sur les intérêts qu'il y a derrière, alors que l'élection du nouveau secrétaire général de Force ouvrière va avoir lieu la semaine prochaine, avec trois candidats qui s'affrontent, Patrice Clot, Christian Grolier et Yves Verrier. Dans cette élection, plusieurs fédérations de FO jouent gros, y compris en termes financiers. Il faut savoir que sitôt élu à la tête de Force ouvrière au printemps dernier, Pascal Pavageot avait commandé un audit pour faire la transparence sur la répartition de la manne au sein du syndicat. Et ça, si l'on en croit certaines sources internes, eh ben ça n'a pas plu à tout le monde.
Les précisions d'Olivier Samin du service économie d'Europe 1. PSA va fermer son site de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis, site sur lequel devrait s'implanter le futur hôpital Grand Paris Nord. Cette usine PSA emploie actuellement quelques 320 personnes. Il n'y aura pas d'impact social, promet la direction. Les hôpitaux Bichat et Beaujon doivent se rapprocher à l'horizon 2026 pour former un grand campus capable d'accueillir plus de 9000 étudiants et chercheurs. Le discours d'Emmanuel Macron devant l'UNESCO. Aujourd'hui, le président appelle à la régulation d'Internet. Et il annonce que la France et Facebook vont travailler ensemble pour lutter contre les discours haineux sur les réseaux sociaux. Le suicide de l'une des porte-paroles du mouvement des policiers en colère, on l'a appris ce soir, elle appartenait à la brigade anticriminalité des Yvelines. Elle a mis fin à ses jours chez elle avec son arme de service à Carrière sous Poissy. Elle aurait envoyé auparavant un message à des collègues de travail dans lequel elle indiquait ses intentions sans toutefois préciser les raisons de son geste. Cela fait trois semaine qu'il comparait devant la cour d'assises. Georges Tron, l'ancien secrétaire d'État et ancien maire de Draveil, s'est expliqué pour la première fois cet après-midi. Jugé pour viol et agression sexuelle, il a tout nié en bloc, Guillaume Bier.
Pendant deux heures, Georges Tron se défend ardemment à la barre. Les accusations, je les conteste, dit-il, mâchoire serrée. Il répète qu'il n'a jamais eu de relations sexuelles avec son ancienne adjointe, ni avec les plaignantes. Le président l'interroge alors sur sa maîtresse et sur les propos compromettants qu'elle a pu tenir sur des écoutes téléphoniques. Georges Tron explique qu'elle était en colère d'avoir entendu n'importe quoi sur lui. Le président lui demande si sa relation avec elle se poursuit pour éviter qu'elle ne le charge. Ce n'est pas le cas, assure-t-il, ajoutant que c'est une situation incroyablement inconfortable d'en parler ici. Georges Tron en vient ensuite à sa passion pour la réflexologie plantaire. J'ai compris que c'était exploité contre moi. Ceux qui m'avaient vu comme un réflexologue m'ont ensuite vu comme un pervers. C'est insupportable. Vous n'avez pas perçu une ambiguïté, demande le président. Si je l'avais perçu, j'aurais été un peu couillon de continuer. Puis Georges Tron conteste point par point les témoignages défavorables de femmes de toutes parts massées sans leur consentement. Le maire de Draveil se tend, l'homme politique prend le dessus et le doigt tendu, il lance à la cour. Passer trois semaines ici, entendre des gens venir m'insulter comme ils le font, c'est la pire période de ma vie.
Le compte-rendu de Guillaume Bier à la cour d'assises de l'Essonne pour Europe 1.
Isabelle Millet sur Europe 1.
Merci d'écouter Europe 1. C'est la suite de votre journal. Il est 22h09 et en Californie, les pompiers sont toujours aussi désarmés face à l'ampleur des incendies qui font rage ces derniers jours, notamment dans la commune de Paradise au nord de Sacramento. Le bilan provisoire est de 29 morts. Avant de rejoindre le correspondant d'Europe 1, Benoît Clerc, écoutez ce témoignage de Nicole. Elle est infirmière dans cette ville de Paradise qui aujourd'hui porte si mal son nom et elle a bien cru qu'elle allait mourir dans les flammes alors qu'elle devait évacuer en urgence les patients de son hôpital. Elle a dû se sauver à son tour. L'infirmière a pris sa voiture et elle s'est retrouvée sur la route, piégée par les flammes.
J'ai appelé mon mari. Je lui ai dit, je ne peux aller nulle part. Je vais mourir. Et il m'a dit, tu dois t'enfuir, tu dois courir. J'ai dit, ok. Je suis sortie de ma voiture et j'ai couru. Je n'arrivais plus à respirer. Je suis arrivée à un camion de pompiers, l'un d'eux m'a fait monter dedans et m'a mis une couverture anti-feu. Un des pompiers disait à la radio, on a besoin d'un soutien aérien, sinon on va y rester. On a besoin d'un soutien aérien. Le pompier a regardé son coéquipier avec un regard que je n'oublierai jamais, l'air de dire « On va mourir, on va périr dans les flammes !» Ensuite, je me souviens juste que je suis arrivée à l'hôpital.
Le témoignage de Nicole, une infirmière de Paradise, jointe pour Europe 1 par Yasmina Katou. On vous retrouve, Benoît Clerc, vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Californie. On vient de l'entendre, Benoît, la situation sur place reste apocalyptique.
Les pompiers de 6 États américains sont venus prêter main forte à leurs collègues californiens, exténués après plus d'une semaine de lutte contre les gigantesques incendies qu'ils n'arrivent toujours pas à maîtriser. Dans le brasier de Campfire, au nord de Sacramento, des flammes de plus de 30 mètres de haut détruisent toujours tout sur leur passage. Des équipes de médecins légistes fouillent les décombres pour tenter d'identifier de nouvelles victimes. Plus au sud, dans la région de Malibu, près de Los Angeles, les collines sont écorchées vives. Le nombre de maisons détruites a doublé en moins de 24 heures. La météo n'a n'arrange pas la situation, puisque les vents chauds venus du désert soufflent encore à plus de 80 km/h. Aucune amélioration n'est prévue avant la fin de la semaine. À Malibu, Benoît Clerc, Europe 1.
Encore une journée sous haute tension dans la bande de Gaza. Deux Palestiniens ont été tués ce lundi, trois autres blessés par des frappes israéliennes. Et ce soir, c'est le bâtiment de la télévision du Hamas qui a été détruit par l'aviation israélienne.
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h11. La SNCF a annoncé aujourd'hui qu'elle vendait sa filiale d'autocars Ouibus au géant français du covoiturage Blablacar. Créée en 2012, les pertes se sont accumulées pour atteindre 165 millions d'euros. Les deux entreprises avaient commencé à travailler ensemble lors des grandes grèves du printemps à la SNCF. L'une et l'autre avaient partagé leur plateforme pour répondre à la demande des voyageurs. Notez que Nicolas Brusson, le cofondateur et directeur général de Blablacar, sera dans quelques minutes l'invité d'Emmanuel Duteil sur Europe. Les véhicules les plus polluants seront interdits dans ce qu'on appelle le Grand Paris dès l'été prochain. Les élus ont voté aujourd'hui. Cette interdiction, Julien Pierce, concernera l'intérieur du périmètre de l'autoroute A86.
Oui, dès juillet 2019, une zone à faible émission va être mise en place en proche banlieue. Concrètement, les 79 communes qui se trouvent au sein du périmètre entouré par l'A86 devront interdire la circulation du lundi au vendredi, et ce de 8h à 20h, aux voitures diesel mises en circulation avant 2001, ainsi qu'aux poids lourds avant 2006. Autrement dit, tous les véhicules ayant la vignette critère 5, soit plus de 700 000 voitures tout de même en Île-de-France, qui dès juillet prochain ne pourront plus se rendre par exemple à Montreuil, Nanterre ou encore Versailles. Au même moment, la ville de Paris interdira la circulation aux véhicules critère 4, soit tous les diesels immatriculés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005. La métropole du Grand Paris va en fait s'aligner progressivement sur le calendrier de la capitale, avec pour objectif l'interdiction en 2024 de tous les véhicules diesel et en 2030 des véhicules essence. Cette mesure doit désormais être adoptée par les 79 communes concernées, et cela pourrait bloquer à certains endroits, comme à Saint-Denis, où le maire communiste a d'ores et déjà annoncé qu'il ne prendra pas d'arrêté pour instaurer cette zone à faible émission. Laurent Russier explique que 5300 véhicules dans sa commune sont classés critère 5 et que leurs propriétaires n'ont absolument pas les moyens d'en changer. De leur côté, les associations environnementales estiment à 5000 le nombre annuel de morts prématurées liées à la pollution de l'air en Île-de-France.
Les précisions de Julien Pierce. Le foot et l'hécatombe chez les Bleus. Voilà maintenant qu'il faut remplacer les remplaçants. Alexandre Lacazette, qui avait été appelé pour pallier le forfait d'Anthony Martial, est lui-même contraint de renoncer pour le match de vendredi contre les Pays-Bas en Ligue des Nations. Il est remplacé par un espoir dont ce sera la première convocation, Alassane Pléa. A noter également le forfait de Paul Pogba, remplacé par Moussa Sissoko, et de Benjamin Mendy, remplacé par un autre Mendy, Ferland Mendy, convoqué lui aussi pour la première fois en équipe de France. Un forfait également en tennis, préoccupant puisque Richard Gasquet ne jouera pas la finale de la Coupe Davis à la fin du mois contre la Croatie à Lille. C'est un vrai coup dur pour la bande à Noah. Et puis sur la route du Rhum, la 7e tentative aura été la bonne pour Francis Joyon, victorieux la nuit dernière après un finish époustouflant. Un incroyable corps à corps avec François Gabart qui l'a coiffé au poteau, doublé dans la dernière ligne droite. 7 minutes et 8 secondes seulement séparent les deux navigateurs. C'est une belle revanche pour Francis Joyon à 62 ans. Et c'est une déception forcément pour Gabart qui était l'invité d'Europe 1 ce soir.
On ne peut pas gagner tout le temps et voilà. Et je préfère terminer deuxième avec cette belle histoire qu'on a pu vivre avec Francis, avec l'affrontement, avec tout ce qui s'est passé, que arriver premier sans avoir vécu des émotions fortes comme j'ai pu les vivre et avec des gros écarts à l'arrivée. Ça, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. La compétition, elle est belle quand elle est serrée, quand elle est dure, quand elle est terrible. Et c'est ce qui s'est passé là. Alors, c'est dur, c'est terrible, mais c'est beau quand même. Et j'ai vécu un très beau moment de course et je suis ravi. Je suis très fier de ce résultat parce que je suis fier d'être arrivé déjà en Guadeloupe. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Trimaran Massif a eu des avaries quand même majeures et importantes dès la première nuit. La course pour Massif, elle aurait pu s'arrêter en Espagne. On a quand même pu continuer, on a pu traverser l'Atlantique, j'ai réussi à naviguer en bon marin pour essayer d'amener le bateau de l'autre côté.
Et mais alors ça, c'est fascinant.
C'était déjà chouette.
François Gabart, qui était l'invité du Grand Journal de Mathieu Béliard sur Europe 1. Et puis, on a appris ce soir la disparition d'une légende de la bande dessinée américaine, Stan Lee, avec 95 ans. Et on lui doit notamment les personnages iconiques hein, de Spider-Man, les X-Men ou bien Hulk. Et on jette un œil tout de suite sur la météo avec vous, Elena Morna. Vous nous annoncez, Elena, une baisse des températures demain après avoir atteint des records cet après-midi.
Effectivement Isabelle, on va perdre près de 10 degrés entre l'Alsace, la Lorraine, jusqu'en Saône-et-Loire et Savoie où on était 10 à 12 degrés hein, au-dessus des normales de saison. Belfort va ainsi passer de 20 à 12 degrés demain après-midi, Nancy de 21 à 14. On aura 12 à 16 sur la moitié nord et 16 à 22 au sud. C'est toujours au-dessus des normales de saison. L'année 2018 devrait d'ailleurs exploser les records de douceur en France comme sur le reste de l'Europe. Moins chaud et moins de pluie demain. Après avoir fait du surplace sur les régions de l'Ouest, la perturbation pluvieuse qui nous concerne depuis deux jours bascule en enfin, vers la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté, Bourgogne, Lyonnais, jusqu'au Languedoc-Roussillon demain matin. Les pluies faibles vont s'espacer dans l'après-midi, notamment dans le sud, et quitter le nord-est où vous profiterez déjà du retour d'éclaircies. Autant vous dire que ça ne résorbera en rien les problèmes de sécheresse. Sur l'extrême sud-est, des nuages le matin, lumineux l'après-midi. Et puis sur une grande moitié nord-ouest, du brouillard le matin, des éclaircies là aussi l'après-midi. Ce temps très automnal finalement, brouillard le matin, éclaircies l'après-midi, devrait nous concerner pour tout le reste de la semaine. Du brouillard qui aura parfois bien du mal à se lever, notamment dans le Val-de-Saône. Les températures vont fraîchir dans la partie nord, elles resteront douces au sud.
La météo, signée Elena Morna.
Europe 1.
Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Didier Hameau de boursier.com, juste avant l'invité écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le directeur général de Blablacar qui vient de racheter Ouibus à la SNCF. A tout de suite sur Europe 1.